Seigneur pour ce que Pierre a préparé. Je te prie que tu parles pour lui, que tu nous parles à travers lui, qu'il puisse nous apporter ta parole et que ça puisse nous rappeler qui tu es, nous ressourcer, nous attacher à toi, avoir envie de demeurer pour cette nouvelle semaine dans tes bras d'amour. Amen.
Amen. Merci Geoffrey pour cette introduction, de nous avoir conduits dans la louange. Merci aussi au groupe de musique, fidèlement, nous accompagne, Rose qui joue du piano, Priscille qui a rejoint le groupe de chant, bravo, merci. Les Rotounos qui sont là fidèlement, Florian aussi qui bat la musique. Donc voilà, c'est un bouquet qu'on a offert au Seigneur ce matin. J'ai beaucoup hésité pour le message de ce matin. Jusqu'à hier, je n'avais pas encore tout à fait une conviction. Et puis finalement, le Seigneur a été bon, il a pourvu comme d'habitude. Donc je voudrais ce matin dédier un peu ce message à nos jeunes baptisés. Alors les jeunes, les derniers, hein, Anne-Sophie et Auréa, mais aussi ceux un petit peu avant, hein, et remonter jusqu'à moi, hein, je suis un jeune baptisé de 38 ans. Mais on a toujours besoin, en tant que jeune baptisé, de revenir à certains fondamentaux. Et donc, quand on vient au Seigneur, quand on s'engage pour Jésus-Christ, une des premières choses qu'on apprend, c'est ce qu'on appelle l'inhérence des Écritures. Alors, c'est un gros mot, qu'est-ce que ça veut dire, l'inhérence des Écritures? Tout simplement que la Bible est entièrement vraie et qu'elle ne comporte aucune erreur. Alors c'est une position doctrinale, parce qu'il y a plein de gens qui vont vous dire « Oui, mais la Bible a été écrite par des hommes, et de toute façon il y a différentes traductions, et puis vous voyez, il y a des écarts, etc. » Voilà, donc c'est une question de foi, hein, mais un des points de doctrine fondamentaux sur lesquels tout chrétien né de nouveau base sa foi, c'est l'inhérence des Écritures, la Bible est entièrement vraie. Parce que nous vivons dans un monde de pseudo-vérité, de demi, de quart, de trois-quarts vérité. Et c'est rassurant de pouvoir nous appuyer sur quelque chose qui est vrai. Vous connaissez les fake news. Quand on lit une information, on n'est plus sûr de rien. Mais la Bible est entièrement vraie. Et d'ailleurs, Paul dira à son disciple Timothée, c'est un verset qu'on apprend par cœur pour ceux qui suivent le plan de mémorisation des Écritures, hein, toute l'Écriture est inspirée de Dieu et est utile pour plein de choses. Éduquer ses enfants, gérer les conflits, diriger, voilà, elle est utile pour plein de choses. Pourtant, dans certains cas, un jeune lecteur pourrait trouver des paradoxes dans la Bible. Alors c'est quoi un paradoxe? Tout simplement, c'est lorsque deux faits sont associés et peuvent apparaître contradictoires, voire même opposés. Par exemple, comment est-ce qu'un Dieu d'amour, on le chante, on l'a chanté ce matin, comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut condamner certains à l'enfer éternel? C'est impossible. C'est un paradoxe. Et ça a donné une fausse doctrine qu'on appelle l'universalisme. Ça, Michel Polnareff, on ira tous au paradis. C'est l'universalisme. Ou bien, autre paradoxe, comment est-ce qu'un Dieu qui élit certains et réprouve d'autres peut donner le libre arbitre à l'homme? Alors là, il y en aurait pour des heures de débat. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Autre chose, Marc, chapitre 8, verset 35, Jésus dit « Celui qui voudrait sauver sa vie la perdra ». Comment est-ce qu'on peut sauver sa vie en même temps la perdre? Et puis un autre paradoxe, comment est-ce que Jésus peut être à la fois homme et Dieu? Ça a donné 4 siècles de controverses jusqu'au concile de Chalcédoine qui a tranché. Jésus est 100% homme et 100% Dieu. Donc 100 plus 100, théoriquement, ça fait 200%. Mais en fait, 100 plus 100, ça fait 100. Voilà, donc c'est un paradoxe. Alors, certains paradoxes de la Bible font partie des choses cachées par Dieu et doivent être acceptées comme telles. C'est ce qu'on appelle le pas de la foi. Et c'est ce que Dieu nous dit, ça c'est très important. Par exemple, si vous coincez sur la doctrine de l'élection et de la prédestination, ben, il y a ce verset qui nous dit « Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées ». Donc il y a un moment où l'homme a des limites qui ne peut pas comprendre, et Dieu est au-dessus de l'homme. Et il faut accepter ça, parce que si l'homme veut se faire Dieu, il va essayer de tout comprendre, et s'il ne comprend pas, il va se révolter, il va dire « c'est pas possible, il y a des paradoxes, tout ça », enfin bref, c'est ce que font plein de gens. Et puis il y a d'autres paradoxes qui peuvent être résolus par la révélation des Écritures, qui ne sautent pas aux yeux au premier abord. Vous voyez ce que nous dit Moïse dans le Deutéronome ? Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu, mais les choses révélées sont à nous et nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique les paroles de cette loi. Ça, ça a été écrit il y a 3500 ans et qui sont encore d'actualité. Et en similairement, Proverbe 25 nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des hommes, c'est de sonder, de s'enquérir soigneusement des choses. Alors ce matin, j'aimerais aborder avec vous un de ces paradoxes, simplement pour vous montrer la démarche assidue qu'on peut avoir pour examiner les Écritures. Et c'est pour ça que je m'adresse particulièrement aux jeunes, mais je pense peut-être que des moins jeunes pourraient en bénéficier. Ce message donc va être mené un peu comme une enquête. Ça tombe bien, ça va nous préparer au film « Jésus l'enquête ». Donc j'espère que vous viendrez nombreux, que vous inviterez de nombreuses personnes qui ont besoin d'en savoir un peu plus. C'est le 12 avril, je fais de la pub, Daniel, le 12 avril au soir, le samedi, voilà, qui raconte, c'est un film qui raconte comment le Seigneur a béni un monsieur qui s'appelle Lee Strobel, qui a voulu sonder les Écritures. Alors au début, il avait une intention malsaine, mais Dieu a tourné le malsain en bien. Donc c'est vraiment magnifique. Alors, on va aborder ce paradoxe. Voilà. Comment est-ce qu'il est possible que Jésus dise « Heureux ceux qui répandent ou procurent la paix » en Matthieu 5, 9. Je vous invite à prendre ces deux textes. « Heureux ceux qui procurent la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. » Et en même temps, il va dire « Je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée, le combat. » Alors, je suis jeune converti, je lis ça, je dis « C'est n'importe quoi. » Non, c'est pas n'importe quoi, on va essayer de voir ce que Jésus veut dire là. Puis vous allez voir, ça va pas aider que les jeunes convertis. Alors je vous invite à prendre ces textes, même si je vous les affiche, parce que, vous savez, je peux vous afficher des trucs, ça défile très vite, c'est un peu comme la télé, on oublie très vite. Donc quand on ouvre la Bible, on va lire ces textes. Je vous propose de lire donc Matthieu 5, 9, c'est les Béatitudes. Matthieu 5, c'est le début du sermon sur la montagne, on retrouve les béatitudes. Et puis l'autre texte, il est dans plusieurs évangiles, mais j'ai choisi Luc, parce que vous allez voir, Luc regroupe des éléments qui vont nous aider dans l'enquête. Donc on va faire une enquête, pour faire une enquête, il faut avoir un livre, il faut suivre attentivement. Donc Matthieu 5, 9, on reviendra sur ces béatitudes, parce que vous allez voir que la position des béatitudes est importante. Pour ceux qui veulent en savoir plus, ou je vous invite, on a fait il y a 4-5 ans une étude de l'évangile de Matthieu et on a vu les béatitudes. Elles sont traitées en détail, béatitude par béatitude. Voilà, donc Matthieu 5, 9, vous voyez. Alors dans ma version, je vais lire dans la Bible en français courant. J'ai égaré ma Bible aux colombes, je ne sais plus où elle est, donc il faut que je la retrouve. Elle a été perdue plein de fois. Il dit donc « Heureux les artisans de paix » dans ma version, « car ils seront appelés fils de Dieu ». Et on va lire le texte de Luc, chapitre 12. Là, on va le lire un peu plus en détail. Luc, chapitre 12. Comme ça, vous mettez un doigt dans votre Bible ou alors un doigt dans votre téléphone. On ne peut pas mettre de doigt. C'est vrai, on ne peut plus mettre de doigt maintenant. Luc, chapitre 12. Je vais lire à partir du verset 49. Donc, Jésus dit « Je suis venu apporter un feu sur la terre et combien je voudrais qu'il soit déjà allumé ?» Vous voyez, pour un artisan de paix, ce n'est pas terrible. Je dois recevoir un baptême et quelle angoisse pour moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? C'est notre verset. Non, je vous dis, mais la division. Dans des versions, c'est dit l'épée. Dans d'autres versions, c'est le combat. Dès maintenant, une famille de 5 personnes sera divisée, 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre son fils, le fils contre son père, la mère contre sa fille, la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Voilà, donc ça c'est un texte qu'on trouve en parallèle dans Matthieu 10. Et là, Luc associe un autre texte qui est plus loin dans Matthieu, au chapitre 16, Jésus disait aussi à la foule, quand vous voyez un nuage se lever à l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir et c'est ce qui arrive. Et quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites, il va faire chaud. Et c'est ce qui arrive. Hypocrite, vous êtes capable de comprendre ce que signifient les aspects de la terre et du ciel, alors pourquoi ne comprenez-vous pas le sens du temps présent ? Alors on ne sait pas à qui Jésus s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse aux pharisiens ? Il les traite d'hypocrite, mais... Voilà, on ne sait pas, c'est un discours. Mais en tout cas, voilà, Jésus pointe là-dessus en disant, vous êtes capable de comprendre plein de choses et vous ne comprenez pas ce qui se passe dans le temps présent. Et c'est, là aussi, il y a une opposition. C'est important, ça, parce que, vous voyez, aujourd'hui, par exemple, l'être humain, il est capable d'aller sur la Lune, de faire des exploits, de graver des puces au nanomètre, d'accord ? Mais il est incapable de comprendre des vérités ultra simples de l'Évangile. Voilà, c'est un peu aussi un autre paradoxe. Donc, comment est-ce qu'on peut être un artisan de paix et en même temps apporter l'épée et la division ? C'est ça le paradoxe qu'on va essayer d'étudier un petit peu plus en détail. Alors déjà, c'est quoi la paix ? C'est quoi la paix ? Alors, voilà, ça c'est le texte qu'on a lu, hein, qui va nous aider dans l'enquête. Alors la paix, c'est quoi ? C'est un rapport entre des personnes qui ne sont pas en conflit. Ça, c'est le Robert qui nous dit ça. Donc il n'y a pas de conflit. Donc, bibliquement parlant, je pense qu'on peut aller plus loin dans la notion de paix, et ça va nous aider aussi. Hein, moi, je dirais que bibliquement, c'est ce que je vous dis, c'est ma définition propre, c'est un espèce d'état de plénitude dans plein d'aspects de ma vie. Hein, c'est-à-dire une plénitude avec Dieu, une plénitude avec sa création, une plénitude avec l'être humain, la relation avec les autres. Voilà, c'est un état général de plénitude que moi, j'atteins rarement, complètement. Donc c'est une grâce quand Dieu peut me l'accorder. C'est un espèce d'état d'harmonie, on dirait presque un état originel. Voilà. Dans le jardin d'Éden, je ne sais pas, j'y étais pas, mais dans le jardin d'Éden, je m'imagine que ça devait être un état comme ça d'harmonie, où l'homme et la femme étaient ensemble, ils gardaient le jardin dans la journée, le soir il y avait une petite brise, ils rencontraient le Seigneur. Vous voyez, ils regardaient la création, il y avait les animaux, ils donnaient les noms aux animaux. Il y avait une espèce d'harmonie, c'est peut-être ça la paix biblique. Hein. C'est cet état naturel qui a été donné à l'humanité avant l'irruption du péché. Et l'hébreu va utiliser un mot pour le mot paix, hein, que vous connaissez bien. Donc c'est le mot, voilà, shalom. Donc c'est une espèce de paix positive qui va regrouper tout ce qu'on dit sur l'harmonie, sur la plénitude. Donc c'est, au sens biblique, c'est bien plus que ce qu'on a lu tout à l'heure dans le Robert, une absence de conflit. Hein. Parce qu'on peut être sans conflit apparent et pourtant ne pas être dans la paix. Par exemple, aujourd'hui, M. Trump et M. Poutine sont sans conflit apparent. Mais est-ce qu'ils sont dans le shalom biblique ? J'en sais rien. Par ailleurs, là, ça va épaissir le mystère du paradoxe, Jésus est appelé le prince de la paix. Pour quelqu'un qui va amener l'épée, c'est un peu bizarre quand même. Hein ? Donc ce texte d'Ésaïe que... au chapitre 9 et au verset 5, pour ceux qui écoutent l'audio, hein, elle est affichée là, mais l'audio, ben, on ne la voit pas. Jésus est appelé prince de la paix, c'est ce qu'on lit souvent à Noël. Hein, et Paul dira même aux Éphésiens, hein, Éphésiens chapitre 2, verset 14, il dira « Christ est notre paix, parce que lui qui des deux, donc deux peuples, les juifs et les non-juifs, n'en a fait qu'un, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, etc. » Je vous renvoie à ces textes. Donc Jésus veut et peut nous donner cette paix qui semblerait-il être un petit peu différente de celle du monde. Donc est-ce qu'il y aurait plusieurs paix ? Ça peut peut-être nous mettre sur la piste. Est-ce qu'il y a plusieurs paix ? On se rapproche peut-être de la résolution de ce paradoxe. Alors si la paix du monde, c'est une absence de conflit dans les relations, alors on peut peut-être y arriver. En faisant des efforts, je peux très bien ne pas être en conflit. Par exemple, même quand j'arrive dans l'église matin, il suffit que je fasse un grand sourire, je ne suis pas en conflit. Et puis, bon, avec un grand sourire, on ne viendra pas me chercher des noises, comme on dit. Mais cette paix risque d'être fragile. Pourquoi est-ce que cette paix risque d'être fragile ? Ben, je vous l'ai expliqué l'année dernière, quand on a étudié la chute. Vous vous en souvenez ? Donc c'est un message du mois de juin, il est enregistré si vous voulez le réécouter. Parce que la chute, l'éruption du péché dans le monde a brisé les relations. D'abord, les relations entre l'homme et Dieu, il y a eu une rupture verticale des relations. Et donc l'homme, à cause de ça, parce que cette paix a été instaurée par Dieu dans le jardin d'Éden, l'homme a du mal à accéder à cet état d'harmonie. D'ailleurs, il a été chassé du jardin, il ne peut plus y revenir, même si les fondateurs du MIT, ce fameux MIT, Massachusetts Institute of Theology, technologie, les fondateurs du MIT ont mis dans les statuts que l'un des objectifs du MIT, c'est de trouver une solution technologique pour forcer l'entrée du jardin d'Éden. C'est véridique. Donc, ça, c'est la paix de Dieu. C'est une paix inaccessible à l'homme, sauf si Dieu lui donne. Mais il peut la reprendre. C'est ce qu'il a fait quand il a chassé les humains pécheurs du jardin d'Éden. Donc, rupture entre l'homme et Dieu, mais rupture aussi horizontale des relations, relations avec son prochain. C'est pour ça qu'il y a eu plein de conséquences. Je ne détaille pas ce qu'on a vu l'année dernière. Accusation, justification, non, c'est pas moi, c'est lui. Ouais, mais c'est pas de ma faute, et tu comprends, machin, etc. Voilà, justification, accusation. Donc, les relations humaines sont marquées par des conflits. À cause du péché, il y a des conflits dans les relations humaines. Et c'est comme un état naturel. Je vous ai parlé de cet état d'harmonie dans le jardin d'Éden, mais l'état naturel de l'être humain, c'est le conflit. Parce qu'il y a le péché, on n'y peut rien. Alors on peut essayer de faire plein de choses, mettre des masques, des sourires, tout ce que vous voulez, mais l'état naturel, c'est le conflit. Si vous n'êtes pas d'accord, venez me voir à la fin, et puis on peut discuter. Enfin, je suis ouvert. Mais c'est ce que je comprends de la Bible. Et vous savez, l'un des premiers conflits bibliques, il a conduit à la mort. Cain a tué son frère Abel. Donc, ces conflits font partie des relations humaines. C'est un petit peu comme un glacier. Vous voyez, là, c'est le glacier du géant, dans le massif du Mont Blanc. C'est la grande langue de la vallée blanche qui descend, là, qui est harmonieuse, puis à un moment donné, ça coince, parce qu'il y a un rétrécissement sous la dent du géant. Et donc, à cause du rétrécissement, le glacier, il arrive... Bam, voilà, ça donne ça. Mais le conflit n'est pas si négatif que ça, parce que ça peut donner des belles choses, vous voyez. C'est magnifique, quand vous regardez une crevasse de près comme ça, c'est formidable. Donc, le conflit, il est naturel. En résumé, on ne peut pas accéder à la paix de Dieu, sauf par la repentance. Si on vient à Dieu, Dieu peut restaurer cet état en nous, quelque part, nous donner cet état de paix. Mais n'oubliez pas, la paix humaine est fragile, c'est une pseudo-paix, c'est un semblant de paix, c'est un ersatz de paix, on pourrait dire. Alors, appliquons ça, tout ce qu'on vient de voir, continue notre enquête, d'accord ? Vous me suivez toujours ? Ça va ? Appliquons ça à nos deux versets paradoxaux. Donc, d'un côté, je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. Donc là, il pourrait s'agir de la paix humaine, de la paix terrestre, de la paix fragile. Il y a une paix qui est fragile et, par exemple, une famille qui vit en harmonie, mais parfois, il y a des tensions dans les familles, il y a des incompréhensions, etc. Mais elle vit en harmonie. Puis un jour, Jésus rentre dans la famille parce qu'il y en a un qui se convertit. Alors là, c'est... Nous, on a connu ça avec Marie-Laure dans nos familles. On est les seuls convertis de nos familles. Quand on s'est converti, on a été mais rejetés de toutes les communautés. Moi, j'étais d'origine orthodoxe. Mon épouse Marie-Laure était d'origine catholique. On a été rejetés, mais vraiment sévèrement. Bon, ça s'est normalisé après, mais ça a été dur au début. Donc, on a une paix humaine dans la famille jusqu'au jour où Jésus rentre. C'est un peu ce qu'il a dit tout à l'heure dans le texte. Je viens apporter l'épée entre le père, la belle-mère, la belle-fille. Enfin, voilà. Parce que peut-être que cette paix, c'est une fausse paix. C'est une paix humaine qui est basée sur le compromis, sur le semblant. On fait semblant d'eux. On met des masques, comme je disais, des grands sourires. C'est un peu le pacte germano-soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous connaissez le pacte germano-soviétique. Deux totalitarismes qui ne pouvaient pas se saquer, ils ont signé la paix. Donc ça a volé en éclats. Opération Barbarossa, Hitler, il envoie, je ne sais plus combien de divisions, 4 millions d'hommes à l'assaut de l'Est. Ça, c'est la paix humaine, c'est la fausse paix humaine. Et puis de l'autre côté, on a Jésus, c'est le prince de la paix. D'accord ? C'est ce qu'on a vu. Jésus vient apporter une vraie paix, c'est la paix du royaume de Dieu, c'est la paix de la plénitude, de l'harmonie. D'ailleurs, il dira « Le royaume de Dieu est au milieu de vous » en parlant de lui. Il amène la paix. Mais pour que cette vraie paix soit instaurée par Jésus, il faut d'abord venir disrupter cette fausse paix. Il faut aller mettre un coup de canif, jeter une boule dans les quilles qui sont branlantes comme ça. Il faut aller disrupter cette fausse paix. Alors c'est quoi cette paix du monde ? Quand Jésus dit « je suis venu apporter l'épée, je suis venu apporter la division dans les familles », peut-être c'est la division entre ceux qui croient au mensonge, qui croient au faux Dieu, qui croient aux faux prophètes, qui croient aux divinités étrangères. Peut-être les religieux qui croient être justes et bons, qui croient bien faire. On est religieux et puis à un moment donné, il faut venir disrupter, il faut venir bousculer cette paix. Ceux qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle. C'est ce que Paul dira aux Corinthiens, hein, notre évangile est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Je cite de mémoire 2 Corinthiens 3, je ne me souviens plus quel verset. Donc, il y a d'un côté les adeptes de la fausse paix, et puis de l'autre côté, les adeptes de la vérité, ceux qui veulent voir briller cet évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Ceux chez les Juifs qui attendaient la venue du Messie, parce qu'il y en avait qui l'attendaient, ils savaient les Écritures, ils connaissaient les Écritures, ils savaient que le Messie allait venir. Donc, pour procurer la vraie paix du royaume, eh bien, il faut d'abord la guerre dans le royaume terrestre. Il faut venir bousculer tout ça, cette hypocrisie, ces fausses croyances. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Matthieu, je suis venu apporter l'épée. Parce qu'à un moment donné, Jésus veut instaurer une vraie paix, la paix du royaume de Dieu. La vie ici-bas, nous le savons, c'est un combat de tous les instants. Et ce combat, on va lire dans Éphésiens chapitre 6, parce qu'il faut en être conscient, on n'est pas dans un monde de béni oui-oui, vous le savez bien. Et dans Éphésiens chapitre 6, on va lire ce passage, donc je vous invite à prendre vos Bibles, où Paul décrit bien la nature de ce combat. Hein. On n'est pas encore dans les cieux. Donc Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10. « Puisez votre force, nous dit Paul, dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit, afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable. C'est lui qui est à l'origine de cette espèce de fausse paix. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi qu'en viendra le jour mauvais, vous aurez la force de résister après avoir combattu jusqu'à la fin. Vous tiendrez encore fermement votre position. » Tenez-vous donc prêt, ayez la vérité pour ceinture. Vous avez ici l'armure du chrétien hein, qu'on étudie à l'école du dimanche avec un beau soldat. Il a l'épée, il a le bouclier, il a le casque. Vous connaissez parfaitement tous ces textes. Voilà, donc c'est ce que nous dit la parole de Dieu. On est dans un combat pour la vraie paix contre le compromis, le mensonge instillé par les puissances du mal. Et pour ça, nous avons l'armure de Dieu, il faut la revêtir. Relisez Éphésiens chapitre 6. Donc pour procurer la paix, selon cette béatitude, il faut venir disrupter cette fausse paix pour amener la vraie paix de Dieu qui est basée sur la vérité dans les couples, la vérité dans l'Église, la vérité dans nos relations. Et Jésus va nous montrer l'exemple. On a vu que c'était le prince de la paix. Et bien, qu'est-ce qu'il va faire ? Quand il rentre dans Jérusalem, il commence par renverser les tables des changeurs cupides dans le temple. Pourquoi ? C'est quoi le temple ? Le temple, c'était la présence de Dieu. C'était là où les gens venaient rencontrer Dieu dans la paix, dans cette recherche d'harmonie. Et ils ont fait du temple un grand magasin. Alors bien sûr, il y a toujours de bonnes excuses. Mais tu comprends, c'est super. On change de l'argent, comme ça, il y a des brebis qui sont achetées, on va offrir des sacrifices, etc. Dieu, il s'en fiche des sacrifices. Ce qu'il veut, c'est la vérité. Il faisait du temple un grand magasin, et c'est ça que Dieu va dénoncer. Parce que c'est un comportement qui n'honore pas Dieu, même s'il y en a plein qui le tolèrent. Au nom de la fausse paix du monde, il y en a qui tolèrent certaines choses qui ne sont pas de la vérité. Ah oui, mais tu comprends, il ne faut pas froisser. Alors Jésus va renverser l'étape des changeurs. Et puis il va dénoncer aussi le cœur froid et incrédule des pharisiens. Hein, quand il guérit cet homme qui a la main paralysée, alors dans les vieilles versions, il a la main sèche. Il guérit cet homme un jour de sabbat, alors ça ne plaît pas aux pharisiens, tu comprends. Alors Jésus va promener sur eux un regard un peu plein de colère et il va guérir cet homme. Il va lui dire « Étends ta main !» L'autre, il étend la main et les pharisiens, ils grincent parce que voilà, ils sont hypocrites et ils ne peuvent pas comprendre que Jésus est venu comme un prince de paix. Et puis, en Matthieu 23, vous connaissez ce texte hein, qui précède Matthieu 24. Matthieu 24, c'est la fin des temps, 24-25. Mais Matthieu 23, c'est le réquisitoire à charge. Hein, je parle comme un juriste. Hein. Réquisitoire à charge contre les pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Il va le répéter plusieurs fois. Pourquoi ? Parce qu'ils menaient une vie superficielle. Ils pensaient servir Dieu, ils faisaient plein de choses bonnes pour Dieu, mais leur cœur, il n'était pas à Dieu. Leur cœur, il était plein de fausses paix, d'hypocrisie, de jalousie, de trucs comme ça. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Mais, si on a vu que le royaume de Dieu, c'est une guerre dans le royaume terrestre, contre la fausse paix, pour la vraie paix, disrupter la fausse paix du monde pour instaurer la vraie paix peut coûter. Ça coûte pour celui qui le fait, qui ose le faire. Regardez bien dans Matthieu la position de la béatitude. Heureux ceux qui procurent la paix. Prenez vos Bibles dans Matthieu et regardez cette position. Il y a 8 béatitudes plus une. Cette béatitude, elle ne vient pas en premier. Elle vient en 7e position. Et je pense que ce n'est pas pour rien qu'elle vient en 7e position. Vous savez, les béatitudes, hein, je vous fais un résumé rapide de ce qu'on a étudié sur 6 ou 7 séances, les béatitudes sont reconnues comme une élévation progressive sur un chemin spirituel. C'est une progression qui commence par « heureux les pauvres en esprit ». Alors, ce n'est pas les pauvres gars, les pauvres femmes. Les pauvres en esprit, c'est ceux qui sont conscients, qui sont rien, qui sont pécheurs, qui sont conscients de leur pauvreté spirituelle. Donc ce chemin de progression, d'élévation spirituelle, commence par une reconnaissance de sa misère. Et puis il y a une progression. Il y a ceux qui pleurent sur leur péché, qui sont affligés, heureux les affligés, qui ont absorbé leur deuil et leur perte, qui ont su à renoncer à leur droit d'avoir raison, d'accord ? Les doux qui renoncent à la terre pour se focaliser sur l'héritage céleste. Et puis, ce sont des gens qui ont épanché leur injustice devant Dieu pour purifier leur cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, qui ont abandonné leur rancune, qui ont demandé pardon sur leur cœur mauvais. On a chanté tout à l'heure « Pardon Seigneur, pardon ». Ce sont ceux qui ont abandonné tout ça pour suivre la volonté de Dieu. Et puis la béatitude, elle arrive en 7e position. C'est-à-dire que pour être un artisan de paix qui va disrupter cette fausse paix, il faut avoir fait un travail personnel. On ne peut pas juste dire « Ah Seigneur, voilà, je vais être un artisan de paix ». Ça coûte d'être un artisan de paix, il faut avoir fait un chemin avant. Et regardez la béatitude qui suit juste après « Heureux ceux qui procurent la paix ». Comme par hasard, ils seront quoi, Françoise ? Après ? Exactement, ils sont persécutés parce que c'est plus facile d'être dans l'hypocrisie, de faire des grands sourires, de porter des masques tous les jours, tous les dimanches. Mais les faiseurs de paix seront persécutés. Quand on se bat pour la vérité, on est persécuté. Regardez ce qui se passe même politiquement, des gens qui se battent pour la paix dans des régimes totalitaires, ils sont persécutés. Donc quand on met les pieds dans le plat pour disrupter la fausse paix du monde, eh bien on va provoquer une division. Et ça va coûter à celui qui le fait. Pourquoi ? Parce que les gens du monde, Ils se défendent, ils se justifient, mais tu comprends, de quel droit, machin, regarde, moi je suis super et tout. Ben non. Et ceux qui sont de Dieu, quand vous disruptez la fausse paix, ceux qui sont de Dieu, ben ils se repentent. Je ne sais pas si vous avez déjà repris un frère ou une sœur dans le péché. La Bible nous dit que si quelqu'un, si tu vois ton frère dans le péché, il faut le reprendre. Bien sûr, on verra tout à l'heure, il y a les formes. Mais si vous reprenez quelqu'un, il y a deux réactions. Soit il vous envoie bouler et ne vous parle plus pendant un mois, ou un an, ou 10 ans. Soit il se repent. Merci frère, écoute, je n'avais pas vu ça. Merci, vraiment tu me sauves la vie. Et c'est vraiment ça. Le faiseur de paix, selon Jésus, ce n'est pas la personne mielleuse qui est toujours d'accord avec tout le monde. Le dernier qui a parlé, il a raison. Ce n'est pas celui qui fait des grands sourires pour préserver une soi-disant stabilité. Ah, tu comprends, il ne faut froisser personne. Ah, surtout pas de vagues, pas de conflits. Hein. Non, non, le conflit, non, c'est pas... Non, non, la paix, la Bible nous parle. Tiens, heureux ceux qui procurent la paix. Et ça, c'est maintenir une fausse paix. C'est une paix artificielle qui un jour va être démasquée, elle va tomber un jour. Et si elle ne tombe pas ici-bas, elle tombera au ciel. Parce qu'on ne peut jamais bâtir le royaume de Dieu en prétendant que ce qui est faux est vrai. Je répète, on ne peut pas bâtir le royaume de Dieu en prétendant que ce qui est faux est vrai. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Je discutais récemment avec un frère catholique qui me disait, après une discussion assez profonde, il me disait, tu comprends, j'ai été formaté dans l'injonction suivante, plutôt l'unité que la vérité. Plutôt l'unité que la vérité. Aujourd'hui, vous avez unité des chrétiens. D'ailleurs, le 14 mai, il y a la marche pour Jésus, unité des chrétiens. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, je pense que ça peut être bien, faire connaître Jésus, c'est courageux. Mais si c'est l'unité plutôt que la vérité, on n'est pas dans la Bible. Parce que la Bible dit « Jésus a réalisé l'unité et nous, on doit préserver l'unité. » Mais préserver l'unité basée sur la vérité. Regardez ce qui s'est passé au Vatican. Je n'accable pas, ça peut arriver chez nous et c'est arrivé déjà chez nous. Ce qui s'est passé depuis 60 ans au Vatican dans les affaires de pédophilie. Est-ce qu'il y avait la vérité ou c'était une fausse paix? Et on n'est pas mieux, hein, parce que Bill Hybels, c'est l'église de Willow Creek, la grande église de Willow Creek de Chicago, elle est tombée exactement pour les mêmes raisons. Il y a eu un double scandale. Bref, si vous voulez en savoir plus, mais mon but, ce n'est pas de parler du scandale, mais voilà. Donc ça atteint tout le monde, ça peut nous atteindre même nous. C'est pas parce qu'on est chrétien, russonnera, machin, qu'on est protégé. On peut être sujet à ça. Et c'est pour ça que la Bible est claire là-dessus, sur ce paradoxe. Le faiseur de paix, selon la Bible, vrai, c'est quelqu'un qui est courageux. C'est quelqu'un qui est énergique. Il ne faut pas être... Il faut être déterminé. Il faut aimer la vérité. Et disrupter une fausse paix, c'est un acte d'amour. C'est un acte d'amour qui doit être pratiqué avec amour. Il faut qu'il y ait de l'amour derrière. Parce que si c'est un acte vengeur, un acte de règlement de compte, eh bien, ce n'est pas un acte de vérité. C'est pour ça que la personne, le faiseur de paix, selon la Bible, ça doit être une personne aimante avant tout, remplie de l'amour de Jésus. Une personne qui est sage, qui doit parler à bon escient. Une personne qui a un tempérament guerrier. Parce que Jésus a dit que c'était un combat. Et Jésus, quand on le voit, il est guerrier. Il dénonce. C'est pas facile. Imaginez-vous, vous arrivez, je sais pas moi, il faudrait donner un exemple. Vous arrivez à Lourdes, ou vous arrivez à la convention KF, et puis vous commencez à renverser les tables. Alors, je dis pas qu'il faut le faire, hein, c'est pas du tout ça. C'est enregistré. Mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. On arrive, on renverse les tables. Il faut être guerrier, comme Jésus. Il faut faire attention aussi. Bon, ça, c'est ce que Jésus a fait, hein, guerrier. Marc, chapitre 11, versets 15 à 17, pour ceux qui écoutent l'enregistrement. Disrupter la fausse paix, je suis en retard, dis donc. Alors, attention à la disruption intempestive. Parce qu'on pourrait être un disrupteur éléphant. Je ne vous fais pas de dessin, à force d'être trop dans la vérité. L'histoire nous fournit des exemples tristes. Vous connaissez peut-être cette personne, c'est un Français, un moine cistercien du XIIe siècle, Bernard de Clairvaux. C'est un homme vraiment très érudit. À comparer, c'est le Billy Graham du XIIe siècle. D'accord ? Il avait une très très grande influence, une très grande aura. C'était l'adepte d'ailleurs, il voulait réunir royauté et sacerdoce. Il était pour la fusion. Donc il influençait au niveau du pape et du roi de France. C'était Louis VII, je crois, Colin, tu me reprends si je me trompe. Louis VII et Eugène, le pape, je ne me souviens plus. Enfin, bref, ce n'est pas des gens ultra connus. Et donc, il était adepte de ça parce qu'il se disait, bah, finalement, si on réunit royauté et papauté, donc sacerdoce, à l'époque c'était la papauté, si on réunit tout ça, il y aura de la paix. Ça sera la paix qui vient de Jésus-Christ, c'est ce qu'il disait. Donc c'était un théologien très puissant, très influent. Mais il était tellement soumis au pape, qui est peut-être moins la parole de Dieu, qu'il a été influencé. Le pape lui a dit, c'était l'époque un peu des croisades, et il y avait récemment une prise de Jérusalem, alors c'était un peu contre sa nature, mais il a voulu se soumettre à l'autorité du pape, et il a mobilisé très activement pour la deuxième croisade. Ils sont partis en croisade, il y a eu des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de morts à cause de ça. Et il a été très influent pour mobiliser les énergies dans toute l'Europe. Vous voyez, quand vous avez de l'influence, de la présence, vous pouvez avoir une action sur les humains. Et c'était au nom de la paix. Ah oui, il faut réunir sacerdoce et papauté, comme ça il n'y aura plus de division, il n'y aura plus de guerre, plus de conflit entre le roi et le pape, puisque ça sera réuni. Et voilà, on va avoir la paix. Donc lui, sans le savoir, il visait la paix du monde, qui était artificielle. Ça a coûté le désastre de la deuxième croisade. Il n'était pas le seul. Il y a eu d'autres croisades qui ont été des désastres. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais voyez, pour soi-disant établir la paix à Jérusalem, on peut parfois faire des dégâts qui sont irréversibles. Donc attention à la disruption intempestive. Parce que le chemin est très étroit. Si on veut être un faiseur de paix, le chemin est difficile et étroit. Et on va être tiraillé entre deux pôles. Deux pôles. D'un côté, on va tirer vers la fausse paix. Alors ouais, il faut être plein d'amour, il faut être indulgent. Ouais, tu comprends, voilà. Et là, on va trouver des versets bibliques. Oh, oui, oui. Et on peut tirer vers la fausse paix au nom de l'amour et de l'indulgence. Et l'amour, c'est central à la Bible, Savino. L'amour est central à la Bible. Mais parfois, trop d'amour, trop d'indulgence, au détriment de la vérité et de la vraie paix, peut provoquer des dégâts. Vous voyez, donc le chemin, il est très étroit. Qu'est-ce que je fais? Si je dis rien, je reste comme ça, bon, je pense que je suis peinard, mais je tire à droite. Si je dis trop, je tire à gauche, alors où me situer? C'est pas évident. Et pendant des années, moi, j'ai animé des ateliers au KF sur comment dire les choses avec amour et vérité. Et c'est pas facile, il n'y a pas de recette miracle en quatre points, bien dire les choses. Non, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut avoir un cœur rempli d'amour, déjà, et avoir ce sentiment de servir le Seigneur, de sainteté intérieure, de recherche de la vérité. Et on ne peut pas y arriver. Enfin, moi, je ne peux pas y arriver tout seul. C'est la communion intime avec Jésus-Christ au quotidien qui me donne la conviction qu'est-ce qu'il faut faire. Et encore, je ne suis pas le plus adroit là-dedans, demander à mon épouse. Donc, c'est un chemin qui est étroit et difficile. Donc, je ne vous aide peut-être pas en vous disant ça, mais c'est la réalité pourtant. Alors, quelques applications de ce qu'on vient de voir. D'abord, une application pour les disciples. Vous connaissez l'apôtre Pierre, lui, il est plutôt du côté gauche, d'accord, plutôt l'éléphant, dans le magasin de porcelaine, il va quand même avec sagesse, en Actes chapitre 5, il va dénoncer la fausse paix d'Ananias et Saphira, qui faisaient un peu les kékés. Là, ah, tu comprends, nous on a vendu un champ, regarde comme on est bien et tout. Fausse paix, basée sur le mensonge, etc. Et, vous connaissez l'histoire, Ananias et Saphira sont foudroyés, raides, parce que ils n'étaient pas dans la vérité. Alors on va dire, surtout pas de conflit, on dit rien. Comme ça, l'Église se porte mieux. Ben, quand vous lisez Actes 5, on n'a pas trop le temps de le lire, mais lisez Actes 5, une grande crainte s'empare de tout le monde et l'Église prospère. Parce que quelque part, on veut être basé sur la vérité et pas le mensonge. Et pourtant, il y en a plein qui se sont levés pour dire « Oh, tu comprends, c'est pas grand-chose, ils ont juste un peu menti. Allez, on va les amener à la repentance et tout, faut pas faire de vagues. C'est l'Église naissante, tu te rends compte, faut pas faire de scandale. » Et pourtant, vous voyez, l'Église a prospéré. Même le grand apôtre Pierre, qui dénonce Ananias et Saphira, il se fait coincer. Il se fait coincer. Prenons nos Bibles dans Galates chapitre 2. Il se fait coincer par Paul. Paul et Pierre. Je peux vous dire, ça déménage. Galates chapitre 2. Lisez Galates. Vous connaissez ce texte, mais peut-être certains ne le connaissent pas ou l'ont lu très rapidement ou ont lu Galates il y a 10 ans. Donc... Alors Galates chapitre 2. Oui, je suis lent à tourner ma page. Galates chapitre 2, verset 11. Donc, c'est Paul qui écrit aux Galates. Mais quand Pierre vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement parce qu'il avait tort. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Pierre mangeait avec les frères et sœurs qui n'étaient pas d'origine juive. Mais après leur arrivée, il a pris ses distances et s'est séparé des personnes qui ne venaient pas du judaïsme par peur des partisans de la circoncision. Les autres frères et sœurs qui venaient du judaïsme se comportèrent aussi lâchement que Pierre et Barnabas lui-même se laissa entraîner par leur hypocrisie. Donc ça touche pas les petits gens du peuple comme vous et moi, ça touche les grands pontes. Pierre, Barnabas et Jacques. Non, pas Jacques, mais parce que Jacques, il n'est pour rien, il vient juste. Mais vous voyez que on peut glisser dans la vérité et on a besoin. Mais Paul, c'est une bénédiction que Paul ait repris Pierre, parce qu'il était dans l'hypocrisie, il ne s'en rendait pas compte, il glissait tout doucement. Donc dans l'Église, si quelqu'un glisse dans l'hypocrisie, j'espère que quelqu'un d'autre va venir l'aider. Sinon, on est dans le mensonge. Et si on ne fait pas ça 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous vous rendez compte tout ce qui s'accumule? Et puis encore mieux, tiens. Actes chapitre 15. Vous lirez, on n'a pas le temps de le lire, mais Actes chapitre 15. Paul, il parle avec Barnabas, premier voyage missionnaire, c'est le grand amour, etc. Et puis Actes chapitre 15, à un moment donné... Il y a Jean-Marc qui est avec eux. Et Jean-Marc, il a des raisons personnelles, il est jeune et tout. Il quitte l'association. Alors, Barnabas, il est gentil comme tout. Ah ouais, bien sûr, il a plein de bonnes raisons. Mais Paul, il est un peu raide, lui. Hein. Donc Paul, il est plutôt à gauche de mon schéma. Et Barnabas est plutôt à droite de mon schéma. Et là, clac, en grec, paroxysmos. C'est le mot paroxysmos. Hein. Autrement dit, dans la Bible, c'est écrit, Actes chapitre 15, verset 37, « Le dissentiment fut assez violent pour qu'ils se séparèrent. Hein, » vous connaissez ce clash entre Paul et Barnabas dans Actes chapitre 15. Qui est-ce qui avait raison? Est-ce que c'est Paul ou est-ce que c'est Barnabas? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais on sait deux choses. C'est que ce désaccord, ce paroxysmos, hein, bon, je cite le mot en grec, ce n'est pas pour faire le savant, c'est pour paroxysme, vous savez, c'est, en général, c'est quelque chose qui est énorme. Hein, c'est pour ça que je cite ce mot. Ça aboutit à deux équipes missionnaires. Hein. Donc il y a eu Barnabas qui a continué avec Jean-Marc, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, mais sûrement des bonnes choses. Et puis on sait que Paul s'est associé avec Silas, il a voyagé, il est passé en Europe, à Philippe, à Thessalonique et tout ça. Dieu a béni, il y a eu un paroxysmos, il y a eu un clash. Donc vous voyez, je vous disais, le conflit, d'accord, c'est dur, mais si on gère bien un conflit, qu'est-ce qui se passe derrière? Dieu bénit. Si on le gère proprement, selon le terme biblique. Donc le conflit, ce n'est pas forcément négatif. Ça fait peur, on fuit le conflit, mais c'est bénéfique, parce qu'à terme, il peut y avoir des bénédictions. Et d'ailleurs, si vous lisez la deuxième épître à Timothée, hein, le testament un peu de Paul, que Paul écrit à Timothée, à la fin, Paul va se remettre en question. Il va dire, il va réhabiliter Jean-Marc, hein, de même que Jésus va réhabiliter Pierre dans Jean chapitre 21, hein, après son reniement. Paul va réhabiliter Jean-Marc, il va dire à Timothée, prends, alors dans la Bible c'est écrit prends Marc, hein, d'accord, mais c'est prends Jean-Marc, c'est le même. Prends Jean-Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour mon ministère, vous voyez. Donc, le conflit s'est résolu parce que Dieu a apaisé, parce qu'à un moment donné, voilà, il y a eu une vérité. Peut-être que Paul a dit, écoute, moi, je n'ai pas besoin de ventre mou, j'ai un voyage missionnaire à faire, c'est dur, il va y avoir des oppositions. Si Jean-Marc n'est pas mûr, c'est peut-être pas pour lui, c'est peut-être pas pour le moment, il y a eu un clash. Puis Barnabas, peut-être il était trop à droite, là, il était trop dans la fausse paix, alors il voulait sans... On ne sait pas qui avait raison. Hein, je vous ai dit, le chemin, il est étroit entre les deux, c'est pas facile. Voilà, en tout cas, ça se termine bien. Paul réhabilite Jean-Marc et on les retrouvera au ciel, tous ces gens-là. C'est formidable. Donc, application pour les disciples. Hein. Vous voyez, Paul qui reprend l'apôtre Pierre. Application à l'histoire de l'Église. L'histoire de l'Église est parsemée de disciples qui ont disrupté la fausse paix basée sur des mensonges. Hein. Vous connaissez Pierre Valdo, hein, il est dans la région. Vous connaissez Jean Hus qui a été brûlé pour sa foi. Vous connaissez ce qui s'est passé avec Luther. À un moment donné, il a osé placarder des ordonnances d'opposition contre la doctrine existence, la toute-puissance de la loyauté. Plus récemment, aux États-Unis, Jonathan Edwards, hein, dans la région de Boston, alors que après le premier pèlerinage du Mayflower, il y avait un développement de la foi, puis la foi s'est éteinte, et lui, il a disrupté la fausse paix. Puis il y a sûrement plein d'Écossais, il faudrait demander à David. Alors demandez-lui, je suis sûr qu'il y a plein d'Écossais qui ont disrupté la fausse paix. Il y a déjà Braveheart, comment il s'appelle, le héros de Braveheart. Bon, c'est Mel Gibson dans le film, mais... William Wallace, voilà. Merci. Merci de votre aide. Alors... application pour nous, hein, c'est plus intéressant. Alors, Pierre Valdo, Jean Hus, je vais un peu vite là. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme application pour nous? Déjà, me poser la question, est-ce qu'il y a un domaine dans ma vie où j'entretiens une fausse paix? C'est-à-dire, où je suis trop, alors, je suis trop à droite, d'accord, du schéma. Une fausse paix que je maintiens artificiellement, je suis dans le compromis, par peur du conflit, par peur de disrupter, par peur de froisser. Par exemple, dire oui à quelque chose alors que je devrais dire non. Ça me coûte, c'est vraiment, ça me tiraille. Je m'en veux d'avoir dit oui, mais bon, je m'engage quand même. Ou bien, il y a un péché, mais je n'ose pas le dénoncer parce que je ne veux pas faire de vagues. Ou bien, il y a une erreur doctrinale dans l'Église, mais je n'ose pas la reprendre parce que bon, ça ne se fait pas. On n'a jamais vu ça depuis des années. Tout ce qui est dit dans l'Église est sûrement vrai, et donc j'ose pas le reprendre, même si je pense que c'est pas en accord avec la Bible. Et puis, ne pas oser reprendre quelqu'un, par exemple, qui n'est pas à sa place dans l'Église. Bon, je sais pas, quelqu'un qui viendrait chanter, qui chante comme une casserole, et j'ose pas lui dire, parce que je ne veux pas le froisser. J'ai rien, non, les gens qui chantent, ils sont très bien. Hein. Pas de malentendu. Mais ça peut arriver parfois. Moi, j'ai connu des situations où, clairement, il y a des gens... On entend les gens grincer des dents. Lui, alors, il me casse les pieds, il chante faux et tout, il perturbe tout le cœur, mais on n'ose pas lui dire. Ça fait sourire, mais... Tout ça au lieu d'amener la vraie paix de Dieu qui est basée sur la vérité. C'est la paix que Jésus nous donne. Lorsqu'il va dire à ses disciples, « Moi, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. » Il dit ça dans l'évangile de Jean. « Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas la paix que le monde donne, je vous donne ma paix. » Donc, il y a bien deux paix dans l'enquête. Donc, la contradiction... C'est le même mot qui est utilisé, mais peut-être que Jésus parlait des deux paix. Je ne sais pas. Vous lui demanderez quand vous serez au ciel, et moi aussi. J'aimerais vous laisser un exemple, parce que j'espère que personne n'est dans cette situation. Voyez ce que nous dit l'apôtre Pierre dans sa deuxième lettre. Lot le juste, neveu d'Abraham. Il a choisi, dans la plaine de Sodome, d'aller vers les pâturages verdoyants, vers la facilité, la sérénité. Il s'est dit, c'est super là-bas. Et puis, à un moment donné, il habitait au milieu de gens dépravés, débauchés. Et tous les jours, la Bible nous dit, il tourmentait son âme. Tous les jours, il était dans ce compromis, dans cette fausse paix qu'il n'osait pas disrupter. Alors peut-être c'était impossible de faire changer les habitants de Sodome. Il aurait été lapidé. On a dit que ça coûtait de disrupter la fausse paix. Peut-être il aurait pu partir. En tout cas, il était dans le compromis tous les jours. Il tourmentait son âme. Dieu a eu pitié de lui. Il a envoyé des anges qui l'ont protégé, qui l'ont tiré de là. Sa femme, qui n'était pas sous son parapluie, on va dire, a été changée en statut de sel. Elle regrettait trop. Lot, il a fini par partir. Mais regardez la suite. À force d'être dans le compromis, à force de ne pas être dans la vérité devant Dieu, eh bien, il a complètement tordu son âme, son raisonnement, et il s'est fait piéger. Il est tombé, enfin, il a mis enceinte ses deux filles. Il a créé deux peuples ennemis d'Israël. Donc, vous voyez, ça, c'est pas juste un petit truc. Bon, allez, je vais être gentil, je vais rien dire. À terme, ça twiste le cerveau. Regardez l'exemple de Lot. Le compromis et la fausse paix ne mènent nulle part. Et moi, je pense que la vraie paix, c'est celle que Dieu donne, qui est basée sur la vérité. Et c'est celle-là dont Paul parle quand il dit « La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Et j'aimerais conclure par cette question. Qui d'entre nous, ce matin, a besoin d'être délivré de cette fausse paix et de ces compromis qui le tiraillent? Je répète, qui parmi nous a besoin d'être délivré de ces compromis et de cette fausse paix qui le tiraille? Prions. Notre Dieu, tu es le prince de la paix. C'est toi, Seigneur, qui nous as donné l'exemple, le chemin. Tu es la parole de Dieu. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, garde-moi de m'écarter de ce chemin. Il est difficile, il est étroit. Mais Seigneur, par ta force, je peux tenir sur ce chemin. Donne-moi ce courage, Seigneur. Donne-moi cette conviction, donne-moi cette sagesse. Ainsi qu'à mes frères et à mes sœurs, pour être sur ce chemin de la vérité. Béni sois-tu, Seigneur. C'est toi qui es là. C'est toi le roi des rois. Nous ne sommes rien devant toi, Seigneur. Nous sommes que des pauvres pécheurs qui sont graciés par ta grâce infinie. Merci, notre Dieu. Amen.
Merci Pierre pour ce message très inspirant. Et je vais appeler